Bonjour à tous, je suis Christine Lécureux, IAIPR de l'Académie d'Orléans-Tours, et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette web radio intitulée « Le bonheur est dans le pré, la fin des paysans ». Afin de répondre à cette question, un intervenant, M. François Purseigle, que nous sommes heureux d'accueillir, maître de conférences en sociologie à l'Institut national polytechnique de Toulouse et ingénieur en agriculture. Son domaine concerne l'étude de l'engagement et du comportement syndical et politique des agriculteurs français. Il a animé avec Bertrand Hervieux, Nona Mayer, Jacques Rémy, un projet sur la place des agriculteurs dans la vie politique française. Il a dirigé un ouvrage qui vient d'être publié, « Le monde agricole en politique, de la fin des paysans au retour de la question agricole ». Le principe de cette web radio est de mettre en relation le thème des rendez-vous de l'histoire avec les programmes disciplinaires. Il s'agit donc pour ces élèves de première d'aborder la question de la mutation des sociétés depuis 1850. Monsieur François Purseigle a donc accepté de répondre aux questions préparées par les élèves de deux classes de première. D'une part, de Frédéric Chéreau, professeur d'histoire-géographie au lycée Durzy de Villemandeur, formateur académique en histoire-géographie et responsable TIS, et Éric Fardel, professeur d'histoire-géographie au lycée Émile Zola de Châteaudun, formateur académique également en histoire-géographie, mais aussi en histoire des arts et responsable TIS pour le site académique. Éric Fardel et Frédéric Chéreau proposent des web radios à l'usage des enseignants et de leur classe pour la troisième année consécutive et je les en remercie vivement.
Bonjour et bienvenue à tous pour cette troisième web radio proposée par l'équipe TIS Académique Histoire Géo et enregistrée en direct depuis le campus de la CCI de Blois. Notre émission s'intitule cette année sur un mode interrogatif « L'amour est dans le pré, est-ce la fin des paysans ?» À l'heure où les paysans sont devenus objets télévisuels dans le cadre d'une émission à succès, la place dévolue au monde agricole dans l'espace géographique et dans le champ social interroge. Derrière notre clin d'œil télévisuel s'articulent de nombreuses problématiques du programme de première, à la confluence de disciplines des sciences humaines comme l'histoire, la géographie ou la sociologie. Autour de cette table sont présents deux élèves de première du lycée Durzy de Villemandeur, dans le Loiret, Mathias Oliveira et Elisa Tony, deux de leurs camarades du lycée Émile Zola de Châteaudun en Eure-et-Loir, Sarah Kellou et Baptiste Chandavoine, leurs enseignants respectifs, et notre invité François Purseigle qui répondra à leurs questions. François Purseigle, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'École nationale supérieure agronomique de Toulouse, ingénieur en agriculture et docteur en sociologie rurale. Vous avez notamment publié aux éditions L'Harmattan, Les sillons de l'engagement, jeunes agriculteurs et actions collectives en 2004. En 2010, l'ouvrage dont rappelait le titre Madame Lécureux, Les mondes agricoles en politique de la fin des paysans au retour de la question agricole. Et en janvier 2013, paraîtra chez Armand Collin avec Bertrand Hervieux votre prochain ouvrage intitulé Sociologie des mondes agricoles. Avant d'entamer notre entretien, Nicolas du lycée Durzy souhaite vous poser cette première question.
Donc, une question de Nicolas de Durzy. Pourquoi avoir choisi ce sujet d'étude ?
Bonne question. C'est une question qui revient très souvent quand on m'interroge. Eh bien, c'est une question qui renvoie aussi à ma trajectoire personnelle. On ne choisit pas un objet de recherche par hasard, quel que soit l'objet de recherche, quelle que soit la science, les sciences qu'on choisit d'étudier ou de mobiliser. Eh bien, ça renvoie un peu à sa trajectoire. En l'occurrence, une trajectoire de fils de paysan pour moi, une trajectoire d'ancien élève de lycée agricole, puisque je suis entré dans une classe de seconde dans un lycée agricole il y a de cela maintenant pas mal de temps, une formation agronomique qui m'a permis de devenir par la suite ingénieur agricole. Et puis, petit à petit, chemin faisant, je me suis posé des questions sur non seulement les techniques, mais aussi la façon dont les paysans vivaient ensemble. Et je me suis dit, l'une des disciplines qui me permettra de comprendre ce vivre ensemble dans les campagnes, c'est la sociologie. Et c'est comme ça que je suis parti en DEA d'économie et de sociologie, puis en doctorat de sociologie rurale.
Alors depuis les années 50, la part des agriculteurs dans la population active a fortement régressé. Peut-on pour autant encore parler d'une fin des paysans ou de l'esquisse d'un certain retour des paysans ? De plus, la transformation des paysages fut tout aussi spectaculaire sur la même période. L'agriculteur de demain ne sera-t-il qu'un jardinier des territoires ruraux ? Nous essaierons d'y répondre aujourd'hui dans une perspective à la fois historique, géographique et sociologique. Concernant le déclin des mondes paysans, la question n'est pas nouvelle puisque Henri Mandras, dès 1967, l'aborde dans le livre qu'il a écrit qui avait marqué les esprits et qui marqua l'historiographie. Quelques années plus tôt, Jean Ferrat, avec sa célèbre chanson « La montagne », établissait en quelque sorte le même constat.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ça n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau, et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle.
Sur ce thème du déclin de la paysannerie, une première question formulée par Joris du lycée Zola.
Pourquoi la part des agriculteurs dans la population active s'est-elle effondrée en 50 ans ?
Également bonne question. Les raisons sont multiples à ce qu'on va appeler un effacement démographique, c'est-à-dire une disparition d'une certaine manière du nombre d'actifs agricoles. En un siècle, la France a perdu 4,5 millions d'actifs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en un siècle, eh bien, on se retrouve avec 10 fois moins de paysans ou producteurs agricoles qu'à la fin du 19e siècle. On est au début du 21e, on peut dire que voilà, durant le 20e siècle, on a perdu 4,5 millions d'actifs. Alors pourquoi ? Eh bien tout d'abord, en raison de l'urbanisation, en raison de l'exode urbain, qui a touché dans un premier temps les manœuvres, les ouvriers, ces petites gens mobiles qui quittaient la campagne pour à la fois construire des usines, mais y travailler. Dans un second temps, et notamment après-guerre, après 1945, on a connu non seulement un exode rural, mais ce qu'on va appeler un exode agricole. Et là, partiront des petits paysans pour la ville, pour devenir des petites mains aussi de l'industrie. Et puis, progressivement, on pourrait appeler ça un exode en creux, eh bien, ces populations qui sont restées au pays ont vieilli. Et l'état civil a fait son travail, et on a vu, donc, en trois vagues successives, de 10 exodes, chuter le nombre d'agriculteurs, dans un premier temps de paysans, puis d'agriculteurs. On reviendra peut-être ensemble sur ces différentes définitions. Je vais rajouter un élément. Sous le coup de la mécanisation, que cet effacement a pris de l'ampleur au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc, exode rural, mécanisation, transformation des campagnes. Tout ceci a conduit progressivement les paysans à quitter leur pays et à ne plus y revenir.
Une question de John du lycée Émile Zola. Y a-t-il une différence entre paysan et exploitant agricole ?
Vieille question que celle-ci. Alors, un paysan, c'est quoi ? Un paysan, je pense qu'il faut retenir ça, c'est avant tout un individu qui se définit par l'appartenance à ce qu'on va appeler une collectivité paysanne, c'est-à-dire, en France, un village. Si j'étais dans le sud, dans le grand sud, dans des pays du sud, cette collectivité, ça serait la tribu. Par exemple, voilà. Ce qui définissait le paysan au sortir notamment de la Seconde Guerre mondiale, c'était l'appartenance à ses villages. C'était l'appartenance à ses collectivités paysannes, comme le disait Henri Mandras, qui se définissaient comment ? Eh bien, tout d'abord par une autonomie. Elles étaient autonomes, ces collectivités. Par l'autarcie économique. Production, consommation se mêlaient. L'interconnaissance des gens qui vivaient dans le village. Il reste encore des traces de cette interconnaissance, de ces collectivités paysannes. Quand vous allez dans un village, on dit souvent, ici tout le monde se connaît. C'est ça l'interconnaissance. Eh bien ça caractérisait les collectivités villageoises et paysannes. Et ce qui fait le paysan, c'est l'appartenance à ces collectivités. Or, Ces collectivités paysannes, depuis l'après-guerre, n'existent plus. Progressivement, elles se sont effacées, elles se sont délitées, elles ont disparu. Le village est devenu un ensemble d'acteurs aux trajectoires très différentes. Et progressivement, notamment suite à la mécanisation, on est passé du paysan, qui se définissait par l'appartenance à ce village, à l'agriculteur, qui se définissait par l'appartenance à une filière économique, par un métier très technique. L'agriculteur est avant tout un polytechnicien au sens propre du terme. Le paysan, lui, eh bien, il se met en fonction, au gré des saisons, en fonction du temps. Il avait du mal à s'abstraire des conditions climatiques, pédologiques. À l'inverse, l'agriculteur, lui, met en œuvre des systèmes de production, met en place des filières pour commercialiser et donc est en lien avec la société. Je ne sais pas si je suis très clair, mais on pourra revenir là-dessus. Donc cette opposition entre un individu qui se définit par l'appartenance à une collectivité paysanne et un individu, l'agriculteur, qui se définit par l'appartenance à une filière, un segment d'activité et qui déploie des activités très techniques.
Comment continueront à évoluer les effectifs agricoles dans les 30 prochaines années à venir ?
Très difficile pour un sociologue de faire de la prospective, qui est un exercice qui ne relève pas des sciences qu'on a communément l'habitude d'enseigner, d'étudier. On pense, du moins les experts démographes, pensent qu'il y aura à peu près 320 000 exploitants agricoles, producteurs agricoles en France à l'horizon 2030. Donc, la chute du nombre d'actifs ne devrait pas cesser. Pourquoi ? Eh bien parce que les superficies agricoles ne cessent de croître. La concentration des exploitations agricoles ne cesse de s'amplifier. Et donc, il sera de plus en plus difficile aussi d'accéder à ce métier pour des agriculteurs qui n'ont pas la chance d'être fils d'agriculteurs. Et qui plus est, quand on est fils d'agriculteur, il est de plus en plus difficile d'avoir le capital, l'argent disponible pour reprendre l'exploitation de ses parents. Et ça, c'est un phénomène assez paradoxal, cette entrée en minorité, puisqu'il s'agit bien de ça. Je vous décris en ce moment une entrée en minorité, l'entrée en minorité d'une population qui, jusqu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, constituait l'essentiel de la France, d'une certaine manière. Du moins, au sortir du XIXe siècle, la France était avant tout paysanne. Et inéluctablement, elle est devenue agricole, puis elle s'est tertiarisée progressivement.
Alors vous venez d'évoquer la question de la mécanisation, François Pursec, comme un des facteurs expliquant le recul, en tout cas démographique, du monde paysan. Pourtant, dans les années 50, le modernisme venu d'outre-Atlantique représentait un modèle à suivre, comme en témoigne ce reportage des actualités françaises de 1952, tourné dans la région.
Aux environs de Chartres, de jeunes agriculteurs français qui reviennent d'un voyage d'études aux États-Unis ont visité une ferme équipée de nouveaux matériels agricoles. Forts de l'expérience acquise lors de leur passage dans les immenses exploitations agricoles du Middle West, les jeunes stagiaires ont pu apprécier le fonctionnement des nouvelles machines et retirer de précieux enseignements quant à leur utilisation et à leur rendement. Grâce au développement de l'industrie agricole française, ces futurs fermiers pourront, dans les années à venir, bénéficier de ces progrès qui contribueront à augmenter considérablement le rendement du potentiel agricole français.
Une question d'Éric du lycée Émile Zola. Comment expliquer que la mécanisation de l'agriculture ait été si massive et que tous les types d'agriculture ont été touchés par ce phénomène ?
Elle a été massive non seulement parce qu'on a importé des techniques, mais parce qu'on se les est appropriées dans les campagnes. Et ça n'a pas été si simple que ça. Si la mécanisation s'est mise en place de manière plus ou moins massive, hein, de manière un peu différenciée quand même, hein, je vais nuancer un peu vos propos selon les secteurs d'activité, selon les régions, c'est grâce au formidable mouvement social qui a vu le jour dans les campagnes après-guerre. Si les agriculteurs se sont modernisés, se sont mécanisés, c'est parce que, comme l'illustre ce reportage, ils sont allés voir ailleurs ce qui se passait. Mais ce voir ailleurs a été pris en charge collectivement par des organisations professionnelles. Si la mécanisation, la transformation de ce milieu a été possible, c'est grâce aux organisations professionnelles que les agriculteurs ont pu mettre en place. Les agriculteurs n'étaient pas des agriculteurs pendant la guerre, au moment où le reportage a été diffusé pour la première fois. C'était des paysans qui devaient s'extraire de leurs conditions de paysans. Et il fallait qu'ils acquièrent des méthodes. Mais ça n'allait pas de soi, parce que ces méthodes étaient confisquées par l'aristocratie, la bourgeoisie, qui tenait les propriétés foncières. Et il a fallu que des mouvements, et notamment la jeunesse agricole chrétienne, se mettent en place dans les campagnes, pour que on ait vu émerger, pour la première fois, une couche de paysans souhaitant, justement, se moderniser, se mécaniser, puisque le salut passait par là. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et si la mécanisation s'est mise en place, si la modernisation, je dirais, a pu voir le jour, c'est non seulement parce que la mécanisation s'est installée et s'est développée dans les campagnes françaises, mais qu'elle a été prise en charge, tout à la fois par un mouvement social, par des organisations professionnelles, et puis par des couples qui... des jeunes couples qui souhaitaient s'émanciper de la tutelle des parents. Ces familles paysannes, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, étaient oppressantes. On idéalise très souvent les campagnes. Mais la vie à la campagne, au sortir de la guerre, était une vie oppressante. On vivait sous tutelle. On ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Et donc la mécanisation, la modernisation a permis non seulement le progrès technique, mais l'émancipation sociale de toute une catégorie socio-professionnelle.
Un retour à certaines formes d'agriculture traditionnelle pourrait-il remédier à la situation ? Une question d'Alexis de Durzy.
De quelle situation parlez-vous ? Une situation qui serait celle du productivisme ou des méfaits du productivisme ?
Oui, oui, exactement.
Oui. Alors, je ne sais pas si un retour en arrière est possible. Moi, je pense que ce n'est pas forcément avec des vieilles recettes qu'on rebondit. Je pense que c'est peut-être en réarticulant le passé et le présent qu'on peut trouver des solutions. Ce n'est pas simple hein, ce que je dis là, j'en ai conscience. Mais oui, il y a des choses à retrouver dans des techniques ancestrales. Oui, on peut regarder de près ce que font certaines paysanneries qui sont toujours en place dans certains pays pour se réapproprier des semences intéressantes. Mais l'agriculture aujourd'hui ne peut pas, de toute façon, revenir en arrière. Elle ne peut que se moderniser, alors peut-être en puisant dans des solutions qui datent d'hier, mais en les réinvestissant, en les recontextualisant. Vous voyez, on ne pourra pas, de toute façon, demander aux agriculteurs de revenir des paysans, ne serait-ce que parce qu'il ne serait pas socialement respectable de leur demander de revenir à une condition qui était une condition, comme je l'ai décrite tout à l'heure, difficile, puisque la mécanisation a permis aussi à la fois des efforts de productivité, certes avec peut-être des méfaits, mais a permis aussi aux agriculteurs de travailler dans de bonnes conditions et de vivre mieux. Il ne faut pas l'oublier. Alors oui, il faut réfléchir à la manière de limiter les excès du productivisme, mais pas forcément en revenant en arrière. Regarder dans le rétroviseur, ce n'est pas forcément la bonne solution.
Une question de Thibaut de Durzy. Pourquoi y a-t-il 22% d'agriculteurs pauvres alors que la France est la deuxième puissance agricole mondiale ?
Très très bonne question. Comme toutes les questions, bien entendu, je me répète un petit peu. Eh bien parce que cette profession a conduit à de l'enrichissement hein, pour certaines catégories qui la constituent, mais se caractérise par un éventail des revenus très très grand. Pourquoi ? Eh bien parce que, comme dans tout milieu, la répartition de la richesse ne se fait pas naturellement. Ça renvoie aussi à un construit politique, une volonté politique. Et puis, parce que vous avez des secteurs d'activité qui ont été touchés de plein fouet par des crises sectorielles, c'est-à-dire des crises qui touchent des secteurs d'activité. Prenez le cas, par exemple, de la viticulture en Languedoc. Alors même que le vin se développe bien, enfin se vend bien dans d'autres pays, dans certaines régions françaises, il y a eu des difficultés, ou du moins les agriculteurs ont rencontré certaines difficultés qui ont pu conduire justement à ce que des agriculteurs s'inscrivent au RSA, au régime de solidarité active. Ils sont 33 000, ces agriculteurs, à être au RSA aujourd'hui. donc à être considérés comme pauvres, parce que certains secteurs sont traversés par des crises spécifiques et parce que certaines régions françaises sont touchées par des crises très spécifiques.
Comment expliquer la multiplication des crises spéculatives sur la production, sur les productions agricoles ? Une question de Valentin de Durzy.
Alors, je ne sais pas si elle est très bonne, celle-ci, mais alors elle est dure pour moi parce que je ne suis pas économiste, je suis sociologue. Donc, un sociologue, ah oui, parce que quand même, une petite précision, c'est quelqu'un qui étudie les faits sociaux par les faits sociaux. Ce n'est pas forcément un économiste qui travaille sur la régulation économique. Alors, bon, j'ai quand même quelques éléments de réponse, puis j'ai quand même un petit peu travaillé la question. C'est lié à la volatilité des matières premières. C'est lié au fait que bah, les échanges agricoles se sont globalisés. Si on spécule, c'est aussi parce que eh bien, les récoltes sont aléatoires. Donc on va spéculer sur le fait que peut-être demain en Australie, il y aura une sécheresse. Je ne sais pas si je suis très clair. Et on spécule parce que le foncier en agriculture peut être aussi un placement intéressant, pour toutes ces raisons-là. Et parce que l'agriculture est devenue un secteur comme un autre. On spécule sur les marchés premiers comme on spéculait jadis sur le pétrole. Et l'activité agricole est délocalisable aussi. On est dans un monde interconnecté. D'où ces phénomènes de spéculation. Mais j'en dirai pas plus.